vous êtes présents aujourd'hui les uns et les autres. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre présence, si vous voulez témoigner?
Bien, je pense qu'on est toujours le juif de quelqu'un.
C'est ça. Attends, ma chérie.
Bon, moi, je pense que l'antijudaïsme a existé pendant 2 millénaires. Ça a été organisé, qu'on le veuille ou non, par les chefs religieux catholiques, chrétiens. Et il faut savoir regarder l'histoire en face. Alors ici, nous ne sommes pas responsables, nous, de ce qui s'est passé en 1349, mais nous devons pouvoir regarder la réalité en face.
Oui. Bon, moi le juif, je suis là pour mes amis musulmans, parce que je trouve que les juifs d'aujourd'hui, ce sont les musulmans.
Dire un mot sur le sens de votre présence. Gérard Hazeman est l'ancien maire du Haut-Wald, commune éminemment symbolique qui est une des étapes du chemin de la mémoire et qui a travaillé à revitaliser la mémoire de Adélaïde Oval.
J'ai de ma grand-mère qui m'avait appris que respecter le peuple juif, le peuple de Dieu. Et c'est bizarre que ce peuple de Dieu a toujours été persécuté. C'était depuis Moïse où sa vie a été préservée d'un sort exceptionnel et que à travers les siècles, toujours les juifs étaient poursuivis. Et ce qui est regrettable, parce que les juifs sont quand même les personnages les plus intelligents du monde, donc qui sont une semence pour que... Et combien de génies a-t-on détruit à Auschwitz et dans les camps de concentration? C'est incompréhensible. Et encore maintenant, si on écoute le chef de l'Iran qui veut faire disparaître le peuple juif, c'est incompréhensible. C'est quand même l'État d'Israël, c'est le peuple qui est la semence du bien dans le monde. On était en Israël au mois d'avril dernier, on était à Yad Vashem, on avait vu ce pays qui fleurit, qui se développe, et aux alentours, on leur convoite ce qu'ils réalisent. Je ne comprends pas.
Nous avons pensé que à un moment où on doit au travail civique de Nicole Dreyer, qui est là avec nous, on doit la reconnaissance d'un quai Menachem Tafel. Il existe un quai Menachem Tafel et une plaque qui est apposée depuis quelques jours sur l'ancien quai Pasteur, le long de l'hôpital civil. Et donc, est-ce que nous sommes appelés à être des historiens qui travaillons dans les anachronismes? Est-ce que refaire l'histoire de 1349 peut avoir du sens aujourd'hui? Est-ce que le rapport à cette histoire peut-il nous éclairer sur notre devoir civique aujourd'hui? Ou est-ce que le rapport à l'histoire est une succession d'images et de mythes qui vont pousser les uns et les autres? Je relisais l'histoire de la guerre de 14 et de l'internationale socialiste, la deuxième je crois, et à la veille de la guerre de 14, les socialistes allemands et français se juraient amitié et solidarité, ce qui ne les a pas empêchés, une fois la déclaration de guerre faite, de s'opposer les uns aux autres et de se tuer pour la mère patrie. Est-ce que le rapport à l'histoire, et je m'adresse particulièrement aux élus et aux professeurs d'histoire, est-ce que ce n'est pas un moteur, une sorte de pouce à tuer? Est-ce que le rapport à l'histoire ne pourrait pas être aussi une sorte de pouce à aimer? Je n'ai pas cette prétention-là de penser que les hommes peuvent s'aimer. Mais en tout cas, de s'indigner, sans doute, comme le dirait notre ancêtre gaulois Stéphane Hessel, hein, il est encore vivant? Il est d'accord, il est encore en vie, oui. Est-ce que l'histoire pourrait nous permettre de nous indigner, de nous révolter, pour l'instant, en tout cas, ma chérie, oui. Ouais, vas-y, voilà, ouais. En tout cas, pour l'instant, force est de constater qu'elle nous a toujours encouragés à tuer, à légitimer le passage à l'acte meurtrier. C'est comme ça que je retiens l'histoire, et c'est comme ça que j'aimerais qu'elle puisse être transformée, notamment au niveau du conflit israélo-palestinien. On y revient toujours ici, et je pense que tous les juifs de Strasbourg qui ont été tués le 14 février 1349, probablement nous écoutent. Je pense que les esprits de ceux qui sont morts, notamment des victimes, dont on pense toujours que les victimes ont été exclues de l'humanité, alors que je suis convaincu que ce sont les bourreaux qui s'excluent de l'humanité, et que les victimes, au-delà de la douleur endurée, sont les prophètes, les évêques de demain. C'est la manière dont elles sont mortes qui nous éclaire sur la manière dont aujourd'hui nous sommes appelés à éviter les récidives. Que nous enseigne, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, que nous enseigne le 14 février 1349, ce que ça nous enseigne, c'est que Strasbourg, à l'époque, était une ville indépendante, et probablement une des villes les plus évoluées culturellement de l'Occident. Probablement. Une des premières constitutions écrites, avec un parlement élu, et d'ailleurs le maire d'aujourd'hui est toujours dénommé Lamestre, en référence à Lammeister de l'époque. Roland Ries est Lamestre de Strasbourg. Donc on a gardé en mémoire cette indépendance et cette potentialité démocratique, puisque le parlement strasbourgeois était élu chaque année. Et à l'époque, cette modernité n'a pas empêché, mais on se retrouve toujours face aux mêmes problématiques. Les modernités n'empêchent jamais les massacres. On peut faire la même observation de la culture allemande jusqu'en 1933. C'était probablement la plus belle culture du monde occidental. Je ne parle pas du Maghreb, puisque le Maghreb, c'est l'Occident pour les Arabes, bien sûr, hein, mais les Arabes, à l'époque, étaient une sous-culture, comme le rappelle Jean-Claude, qui est juge et partie, puisqu'il est témoin et journaliste en même temps, hein. De même que client de la CMDP. il l'a reconnu. Oui, l'Occident de l'époque était le plus élaboré probablement de l'Occident du Moyen-Âge, ce qui ne l'a pas empêché de participer à élaborer des massacres. Et la question que je me pose, c'est que, est-ce qu'au fond, ce n'est pas structurel? Est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs à nos propres yeux, que nous nous autorisons à hiérarchiser la valeur de la vie humaine? Est-ce que ce n'est pas une fois qu'on a atteint l'apogée, le zénith, pour parler arabe si vous voulez, hein, pour piquer les mots aux arabes, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a atteint l'apogée, le zénith, qu'on s'autorise à reconnaître l'autre définitivement comme inférieur? Je ne fais pas un lien direct entre 1349 et 1942, et la systématisation du massacre des juifs et des tziganes. Claire Ozias est là pour nous le rappeler cette semaine. Je ne fais pas de lien direct, mais en même temps, le rapport chronologique, le rapport au niveau de la recherche du sens, c'est quand même troublant. À chaque fois, ce sont en quelque sorte les meilleurs d'un point de vue démocratique, les nazis et des nationaux-socialistes, les meilleurs d'un point de vue démocratique s'autorisent à reconnaître parmi eux, on va d'abord tuer une partie de soi. Les nazis vont tuer d'abord une partie d'eux-mêmes. Ils vont d'abord tuer les sourds muets, ils vont les stériliser, ils vont tuer les vieux, ils vont tuer les malades. Ils vont tuer quelque chose qui incarne et éclaire leur propre humanité. Qu'est-ce qui fait si peur en nous-mêmes qu'on ait besoin d'en faire abstraction, de le faire disparaître? C'est une question je ne sais pas si elle est universelle, je ne sais pas si on se la pose au Machrek aujourd'hui, mais cette question-là, en tout cas, rattrape l'Occident judéo-chrétien, et en 1349, même si Marc-Henri Klein, en ce moment, en train de chialer,
S-H-I-A-L, bon, ouais. Il y a un colloque d'histoire juive en ce moment à la communauté, et ce matin, Marc-Henri et Klein étaient le premier à faire un exposé sur justement le pogrom de 1349, qui n'était pas le seul d'ailleurs, il y en avait dans toute la région, mais il a trouvé des nouvelles informations, des documents qui montrent qu'en fait, contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à présent, les pogroms n'étaient pas liés à la peste de 1348, mais parce qu'ils avaient déjà commencé 10 ans avant. Et il a expliqué que les premiers massacres avaient eu lieu contre les lépreux, qui avaient aussi un signe distinctif, comme les juifs par la suite, comme la rouelle des juifs, et qu'ensuite, à la Renaissance, les massacres, avec le même motif du complot, c'est-à-dire il y a de l'étranger parmi nous, et tout le malheur vient de l'autre, quoi, de l'étranger, et ça avait continué en pleine Renaissance avec les femmes, et d'où on a brûlé les sorcières. Voilà, une continuité. Les lépreux, les juifs, les femmes, les sorcières. Et ça continue aujourd'hui.
Avec les homosexuels.
Les cathares, voilà. Hein,
les cathares. Et les cathares avant.
Et les cathares.
Et l'inquisition,
c'est ça.
Avant.
Voilà.
Et c'est la même histoire.
Bien entendu. À toutes les époques, on peut trouver ça, malheureusement.
Ou heureusement, parce que cette continuité pourrait nous éclairer.
Oui.
Hein, je ne sais pas si c'est le cas. Claire, tu voulais dire un mot peut-être sur...
Non, je suis là pour la mémoire de tous les persécutés qui, bien sûr, sont victorieux dans notre esprit, qui sont victorieux dans l'humanité, évidemment, puisque ce sont eux les vainqueurs de l'humanité. Et je suis là... paradoxalement, et je crois pour la première fois de ma vie, pour associer les héros égyptiens, les héros tunisiens et les héros d'aujourd'hui dans la mémoire des héros du passé.
Quelqu'un que vous n'aimez pas, offrez-lui la thèse de Raphaël Toledano. Ah, voilà. Alors je sais pas s'il est encore là, il est là, ouais. Alors, c'est vous Claire, pas de chance.
En général, les thèses de médecine sont faites avec...
Il y a une blague en médecine qui dit que c'est les vieux profs du Conseil de l'Ordre des médecins. Alors à la limite, on pourrait évoquer les vieux profs du Conseil des biologistes. Puisque la thèse de Raphaël Toledano, qui est faite sur les expérimentations qui ont eu lieu au Struthof et à Strasbourg par les professeurs nazis, ramène à la mémoire les victimes Sinti, les victimes tziganes de ces expérimentations, alors qu'avec le cercle Menachem Tafel, nous avons travaillé depuis 25 ans à rendre hommage et à rendre justice aux victimes juives. L'ensemble des autorités locales pensaient qu'on s'arrêterait à la mémoire des juifs. Ça nous aurait arrangé. Avec nous-mêmes, hein. Ça fait des siècles qu'on bataille avec cette mémoire-là. Et voilà qu'apparaissent aujourd'hui, à cause du juif Toledano, de l'Alsacien Raphaël Toledano, docteur en médecine, la mémoire des Roms. Et donc, on va être obligé à Strasbourg de s'accommoder de ce rapport à la mémoire juive et à la mémoire rome, tzigane, sinti, grâce à Raphaël Toledano. Et si vous lisez cette thèse, vous vous rendez compte que deux des plus grands laboratoires biologiques de Strasbourg, jusque dans les années 95, non pas 1895, mais 1995, étaient tenus par des anciens collaborateurs des médecins nazis, les laboratoires Schuh et Trentz. Donc nous vivons sur des symboles de collaboration, d'adhésion à des idéologies totalitaires, et on peut toujours se demander comment les anciens nazis deviennent anciens nazis. Est-ce que si on a été nazi ou vichiste, est-ce qu'on n'est pas appelé à le rester toujours? Et dans la mesure, et elle n'a jamais devenu ancien, on reste toujours jeune si vous voulez, hein. Et dans la mesure où tous les nazis et tous les vichistes ont été recyclés en médecine, ils ont continué à enseigner, à soigner les patients comme des nazis et comme des vichistes. Hein. Et il n'est d'importance que de se rappeler quels sont aujourd'hui les symboles vichistes à Strasbourg. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur un symbole vichiste, nous sommes sur le symbole de la conviction des plus forts. Qu'on peut trouver un bouc émissaire qui va nous permettre de devenir encore plus forts, d'affirmer encore plus notre hégémonie idéologique et matérielle probablement. C'est certainement une des fonctions du juif à l'époque. Et qui remplit cette fonction-là aujourd'hui? Nous sommes appelés à être le plus lucide possible, sauf à répéter nous-mêmes et à porter nous-mêmes la répétition dans nos actes. La blague qui concerne les vieux du Conseil de l'Ordre, c'est que ils ont, chez les médecins, ils ont un pied dans la tombe et ils opèrent avec l'autre. Chère madame.
Pas le Conseil de l'Ordre qui est une institution vichiste. Pourquoi les médecins, les dentistes continuent à payer une institution vichiste? Pourquoi? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un consensus au niveau de la profession pour refuser de payer sans se faire virer?
Alors aujourd'hui, vous savez que si on ne paye pas, on passe en procès, on est en procès du fait du Conseil. On peut pas, impossible de ne pas payer la cotisation de 300 euros pour les médecins. Sachant que j'ai eu maille à partir avec le Conseil de l'Ordre local, parce que j'ai rappelé, de manière maladroite, je reconnais, que le fondateur, enfin le premier président de l'Ordre des médecins sous Vichy, était René Le Riche, dont nous honorons la mémoire tous les jours.
L'amphithéâtre, Le Riche.
Où c'est que tu le situes?
Bon, là-bas, à la fac de médecine.
Fac de médecine. Alors, Nicole, l'amphithéâtre Le Riche est à deux pas de la plaque du Cercle Tafel, hein?
Pavillon Le Riche.
Il l'a toujours.
C'est la faculté d'entrée au pavillon Le Riche. Ce que je voudrais dire à madame, c'est que non seulement on n'a pas réussi à dissoudre l'ordre des médecins, mais tous les paramédicaux français ont milité pour avoir un ordre. Et depuis très peu de temps, il y a l'ordre des kinés, l'ordre des infirmières, alors l'ordre des sages-femmes existait déjà. Donc non seulement on est dans un courant de pensée qui continue à vouloir et à revendiquer la dissolution, mais on est dans un courant qui demande, qui revendique la création d'ordre.
Mais les gens ne savent pas, je pense que les médecins qui ne risquent plus rien à la retraite, les dentistes à la retraite, devraient se mobiliser pour faire connaître les origines de ces conseils de
mais
l'ordre.
Ça a été fait, et c'est ça qui est effrayant, c'est que ça a été fait, mais néanmoins, la majorité de ces professionnels-là ont obtenu la création d'un ordre. Depuis peu de temps. Hein.
Et la carte d'identité aussi, c'est une création de Vichy. Et aujourd'hui, n'importe quel commerçant vous la demande, et ça ne vient à l'idée de personne de dire que ce document est éventuellement illégitime. Les préfets aussi sont une création de Vichy, et Dieu sait que s'il y en a, il y a des gens qui font du mal dans ce pays, c'est bien les préfets, puisqu'ils représentent le roi et ses successeurs. Et il n'y a personne qui vient à l'idée de réclamer la dissolution de l'ordre des préfets. Et cependant, ce serait bien la première chose qu'on pourrait demander.
Aussi, alors, on est quelques-uns quand même à créer du désordre.
Ce sont des institutions vichistes.
Et on assiste à une régression insidieuse, et les gens ne s'en rendent pas compte. C'est une régression insidieuse des idées. Mais c'est un travail de sape qui avance, et ça c'est grave.
Les manifestations que vous avez vues dans la presse des kinés, par exemple, ou des infirmières, c'est parce qu'elles trouvaient que la cotisation était trop importante sur le sens même de ce que c'est que l'ordre.
Mais ils ne le savent pas, les gens, en général. Il faut faire...
Je suis montée au créneau, parce que...
Moi, chaque fois, je dis aux...
Aux
vendeuses qui me demandent mes cartes d'identité, à tous les coups, je leur explique. À chacune.
Claire, voici la thèse de Rafi. Hein. Raphaël qui... Alors, au passage, peut-être, pour ceux qui ont encore un petit peu le temps, le travail de Raphaël Toledano a été soutenu en décembre 2010. Il a succédé à un premier travail de Patrick Wexler, qui a travaillé sur les expérimentations du professeur Hirt. Rafi travaille sur les expérimentations de Hagen. Et de Bickenbach, mais de Hagen principalement. Il a fallu 20 ans à la fac de médecine de Strasbourg pour accueillir un deuxième travail de ce type. sachant que le premier travail de Wechsler a failli être refusé au moment de la soutenance de thèse. La fac a été très hostile au rappel de cette mémoire, et je veux simplement vous rendre attentif au fait que le directeur de thèse de Patrick Wechsler en 1991 était le professeur d'histoire de la médecine Georges Schaff, qui s'est affiché ouvertement comme soutien du Front National à partir des années 2000. C'est un paradoxe extrêmement déconcertant. Ça veut dire que celui qui a soutenu la thèse inaugurale sur ces questions-là en 91, hein, donc nous sommes à Strasbourg, le premier médecin qui s'intéresse à ces questions historiques ne peut soutenir son travail que des années après les expérimentations, 50 ans après. Le deuxième médecin qui s'intéresse à ces questions attend 20 ans. Ça veut dire, c'est pour répondre à votre question, ça veut dire qu'à la fac de médecine même, on considère que ces questions sont des questions anachroniques. Le nazisme et Vichy sont des questions préhistoriques. On considère que les médecins, l'adhésion des médecins allemands au nazisme a été, c'est comme ça qu'on l'enseigne, schématiquement, accidentelle et criminelle, alors qu'elle a été certainement structurelle. C'est ça à quoi je veux vous sensibiliser. Hein. Et c'est cette question-là, c'est le défi. Est-ce qu'on peut enseigner ça dans les facs de médecine? Est-ce qu'on peut rappeler que René le Riche, qui veille sur nous, vous savez que quand vous êtes opéré au niveau digestif, on l'est de moins en moins directement, mais si des pinces ouvrent vos entrailles, c'est avec des pinces le Riche. Aujourd'hui encore. Hein. Ça veut dire que le Riche nous rattrape. Il a été un des meilleurs médecins dans le traitement de la douleur, c'est incontestable, mais celui qui a accompagné aussi l'application des lois anti-juives sur ses collègues médecins. Et celui qui était présent lors de la rafle du Veldiv et qui s'est défendu en disant « il valait mieux quelqu'un comme moi à ce poste qu'un véritable antisémite ou un pro-vichiste ». C'est comme ça qu'il s'est défendu. Hein. Alors j'évoque aussi la mémoire de Pierre Flimelin, qui est aussi une figure de ce type. Pierre Flimelin a été juge d'instruction à Vichy de 1941 à 1944 et recyclé ensuite